Ce jeudi 21 mars, Ville en Partage s'invite dans les semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole. Ville en Partage est un dispositif de la ville de Saint-Étienne pour agir contre les discriminations liées au handicap. Une volonté de développer Saint-Étienne comme une ville inclusive. Aujourd'hui, 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21, la ville de Saint-Étienne dévoile le guide Troubles du développement intellectuel. Nous vous proposons d'entendre Nadia Semach, adjointe en charge, entre autres, de l'accessibilité et du handicap à ce sujet.
Alors, effectivement, la ville de Saint-Étienne a souhaité poursuivre son travail pour une ville inclusive et durable. Alors, c'est le cinquième guide aujourd'hui qui est dédié aux troubles du développement intellectuel. Il présente des actions qui sont conduites à la fois par la ville, mais aussi il a été travaillé avec l'ensemble des associations.
Qui se retrouve dans ce guide-là? Quelles sont les associations sur lesquelles vous êtes appuyé pour créer ce guide?
Pas mal d'associations. On a travaillé aussi avec les institutions, avec le conseil départemental, parce que ce guide se veut à la fois un guide d'information. Donc, il a été travaillé avec la MDPH, avec des associations, notamment Vivre la vie. Ce guide, il répertorie l'ensemble des partenaires et l'ensemble des partenaires qui ont l'habitude de travailler avec la ville de Saint-Étienne, qui s'engagent également dans la ville en partage. Alors, on peut les retrouver Elles sont nombreuses, donc je ne vais pas toutes les citer.
Alors bien sûr, et puis il suffit de se procurer ce guide-là, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, sur la façon de se procurer ce guide-là. Cinquième édition, on va dire, de ces guides. À qui ça s'adresse quand vous réfléchissez à la création de ces guides-là? C'est pour qui?
Alors, ce guide, c'est d'abord aux aidants, aux personnes afin d'être informées de ce qui existe, donc aux personnes porteuses de handicap, également aux familles, aux structures, parce que souvent il y a bon nombre d'associations et on ne sait pas toujours ce que fait telle ou telle association. Donc il y a un vrai travail de partenariat qui s'est fait pour élaborer ce guide qui se veut à la fois un guide d'information, un guide d'accompagner les personnes porteuses de handicap et toutes les familles.
Alors, dans la sémantique que l'on peut avoir autour du monde du handicap, il y a ce terme-là qui est autodétermination pour accéder à la meilleure des indépendances et surtout pouvoir faire ses propres choix en étant en situation de handicap. C'est important, vous, au sein de la municipalité, notamment le fait de vouloir être une ville inclusive, d'apporter toutes les solutions pour que chacun puisse décider finalement de ce qui est bien pour lui.
Oui, la politique municipale de notre ville depuis notre élection, c'est vraiment de s'engager vers un bien-être social, développement durable, valeurs de la République, et on met l'accent vraiment sur l'inclusion et l'accessibilité pour tous. Et ce guide, c'est un outil précieux pour les personnes touchées par la déficience intellectuelle et leurs aidants, et ça permettra aussi un accès simplifié à l'information, aux ressources qui existent, et finalement de traiter les citoyennes et les citoyens sur le même pied d'égalité pour que chacun puisse être considéré pour ce qu'il est. Et en tant que Stéphanois, en tant que citoyen, c'est important pour nous d'accompagner les personnes.
Alors dans l'édition, la rédaction de ce guide-là, c'est aussi le fait de répertorier toutes les structures qui œuvrent dans ce champ d'action. Ça permet aussi d'avoir en un seul et même document toutes les personnes ressources. De ce point de vue-là, de ces structures associatives, institutions, c'est aussi important de savoir qui fait quoi.
Oui, c'est important. Et puis c'est important aussi, ce que je vous disais préalablement, de faire connaître ce que chaque structure fait. Pour une association, c'est important d'être reconnue et puis aussi de partager cette information. La ville de Saint-Étienne veut une approche globale en matière d'inclusion. Donc c'est important à la fois pour les associations, pour nous et pour l'ensemble des citoyens.
Le travail au quotidien avec ces associations-là, de votre délégation, quel est-il ?
Il est dense, il est vraiment important de travailler avec les associations, avec les personnes aussi porteuses de handicap, parce que qui sait mieux faire que les associations. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait par le biais de partenariats, d'éducation et de l'accès à l'information, c'est d'apporter un maximum d'informations aux personnes.
Alors, où est-ce qu'il va être disponible, ce guide-là ? Comment va-t-il être mis à disposition des Stéphanois au niveau de la distribution et même au niveau peut-être d'Internet pour le consulter en ligne ?
Alors, il sera disponible sur le site de la ville pour l'ensemble des Stéphanois et des Stéphanoises, mais également on pourra retrouver des exemplaires dans les mairies de proximité, à l'hôtel de ville également, et on va en distribuer aux structures pour qu'elles puissent le transmettre aux personnes qui viennent dans des associations, et puis on les mettra à la disposition du public dans les différentes mairies de proximité.
Alors, cette diffusion et la présentation de ce guide, ce 21 mars, rentre dans la programmation des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole. Le handicap est au cœur aussi de ces semaines de l'égalité autour des luttes contre les discriminations. On a pu se croiser sur différentes manifestations dans ces semaines de l'égalité-là. Quel regard vous portez, vous, sur toutes ces manifestations organisées par tout le tissu associatif de Saint-Étienne Métropole ? On sort des limites de la ville. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, quand vous regardez ces actions ?
Alors, on voit que ces actions, elles sont nécessaires parce que la lutte contre les discriminations est un combat tous les jours. Alors, il y a des avancées, mais on voit qu'il faut encore faire davantage. Donc, ces semaines de l'égalité, la ville aussi en partage, permettre aujourd'hui de sensibiliser le grand public à la question à la fois des discriminations, mais également à la question du handicap. Et c'est aussi l'occasion de travailler avec les associations et avec les personnes. Alors, les semaines de l'égalité, c'est des actions qui sont faites dans des collèges, qui sont faites dans des assos, qui sont portées à la fois par les associations elles-mêmes et qui sont accompagnées par Saint-Étienne Métropole, par la ville de Saint-Étienne. Donc on voit que c'est encore aujourd'hui nécessaire quand on voit qu'il y a 25 critères aujourd'hui de discrimination. Donc ce travail, il est nécessaire et il doit se poursuivre et commencer dès le plus jeune âge pour sensibiliser les jeunes, les personnes aux discriminations.
Alors rappelons que ces semaines de l'égalité, c'est jusqu'à la fin du mois de mars. Revenons donc sur ce guide Troubles du développement intellectuel dévoilé donc ce 21 mars. Est-ce que vous travaillez déjà sur un autre thème pour un autre guide ?
Alors oui, ce guide qui est dédié aux troubles du développement intellectuel, vous l'avez dit, sortira le 21 mars. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la journée mondiale de la trisomie 21, donc ça réaffirme l'engagement de la ville envers la création d'une société véritablement inclusive. Et nous travaillons sur un prochain guide qui devrait sortir en fin d'année. Dans la deuxième, il y a deux sessions de la ville en partage, donc ça sera pour la deuxième session de juin à décembre. Et aujourd'hui, les services de la ville avec les structures travaillent sur un guide qui sera plus sur la santé mentale. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en train de répertorier l'ensemble des éléments pour pouvoir tout mettre dans un sixième guide.
Aujourd'hui, 21 mars, c'est donc la diffusion du guide Troubles du développement intellectuel, mais également la journée mondiale de la trisomie 21. Et à cette occasion, nous recevons Cécile Philitte, co-gouvernante de l'association Prisme 21, une association de support et d'accompagnement au quotidien des personnes avec trisomie 21 et de leurs familles.
Alors, Prisme 21, c'est une association
qui existe depuis 1973. Donc, on a fêté les 50 ans de l'association l'année dernière. À l'origine, c'est une association qui a été créée par des parents qui avaient des enfants avec trisomie 21 et qui souhaitaient un petit peu autre chose pour leurs enfants que l'institution, puisqu'à l'époque, il n'y avait que l'institution, et qui voulaient que leurs enfants aient une place à l'école, d'abord, comme tous les enfants. Donc, au départ, ça a été une alliance entre des parents et des professionnels, plutôt rééducateurs, il me semble que c'était orthophoniste, peut-être kiné, je ne sais plus, mais en tout cas au moins orthophoniste, qui ont commencé à créer une association pour un petit peu défendre les droits des personnes, des enfants. L'association, du coup, a ensuite eu le besoin de créer des services pour accompagner ces enfants en milieu ordinaire, puisque c'est vraiment l'essence même de l'association, c'est que tout le monde ait sa place dans la société. Donc, en 1969, un CESAD, service d'accompagnement et de soins à domicile, qui accompagne les enfants de 0 à 20 ans, qui existe encore aujourd'hui, qui accompagne du coup des enfants avec trisomie, mais avec toute autre forme de déficience intellectuelle et ou anomalie génétique. Et puis, bah, au fil de l'eau, ces enfants sont devenus des adultes. Et du coup, il y a eu la nécessité d'accompagner encore d'autres services pour accompagner toujours vers le milieu ordinaire. Donc aujourd'hui, il y a deux autres services. Un service d'aide par le travail qui accompagne toujours les personnes en insertion pro pour trouver un emploi et le garder en milieu ordinaire. Et un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, pour pouvoir avoir son appartement, sortir avec ses copains, prendre de l'autonomie et puis vivre un jour tout seul dans son logement. Voilà. Et puis, il y a deux dispositifs, dont celui sur lequel moi je travaille, un dispositif de soutien à l'autodétermination qui accompagne toute personne qui se reconnaît en situation de handicap. Donc, nous, c'est encore plus large, c'est tout type de handicap, adulte, enfant, tout âge. Et l'idée, c'est de faciliter le parcours. Voilà.
1973, 50 ans maintenant. Le constat en 2024, quel est-il sur bah, cette autonomie-là de personnes atteintes de trisomie? Est-ce que c'est bah, toujours, j'imagine, hein, si l'association existe, un combat aussi de tous les jours?
Alors effectivement, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de personnes qui travaillent en milieu ordinaire, qui vivent comme tout un chacun. Donc on est, mais c'est effectivement un combat de tous les jours et qui n'est jamais gagné. Aujourd'hui, c'est compliqué, notamment au niveau de l'école. Puisque aujourd'hui, on observe que les enfants avec trisomie 21 ont de moins en moins accès à l'école et qu'assez vite, à l'issue de la primaire, l'école, voilà, pour plein de raisons, hein, n'est plus en mesure de, enfin, est moins en mesure d'accompagner ses enfants vers des dispositifs ULIS, par exemple, comme en collège ou après en lycée. Et aujourd'hui, on voit malheureusement que leur place est moins acquise, qui sont plutôt orientés vers du milieu protégé, donc en institut médico-éducatif. Voilà, donc mais on se bat quand même pour que les projets des parents, quand c'est le souhait de rester à l'école ordinaire, soit possible. Voilà, après, effectivement, aujourd'hui, on a aussi bah, des jeunes adultes, enfin, qui sont plus si jeunes que ça, qui ont aussi porter leur voix et on a, nous dans l'association, on est sur une gouvernance partagée avec un collège de professionnels dont je fais partie, des co-gouvernants parents et des co-gouvernants personnes concernées. Et ces personnes concernées, à un moment donné, ont eu le besoin de créer leur propre association. Donc, ils ont aujourd'hui une association qui s'appelle Ensemble Citoyens et qui est une, voilà, c'est un groupe d'auto-représentants, donc qui siègent à certaines instances et qui représentent leurs droits. Donc ça, c'est aussi voilà, des choses plutôt chouettes aujourd'hui où les personnes ben, sont aussi en mesure de pouvoir porter leur parole avec de la facilitation, avec parfois du soutien, mais on est plutôt fiers de ça.
Alors revenons quand même au début de ces propos-là. Et quand on parle de l'école publique est censée accueillir tous les enfants. Et on s'aperçoit et l'entend régulièrement, et vous en êtes aussi témoin, et vous venez de le signaler. C'est très difficile, notamment à partir du collège. Ici, bah, quels sont les leviers que vous pouvez actionner, ou quelles sont peut-être les personnes que vous pouvez interpeller en tant que Prisme 21?
Alors, il y a des gouvernants qui siègent dans différentes instances pour pouvoir effectivement défendre ses droits, ses orientations, donc notamment au niveau de la MDPH, puisque quand un enfant avec handicap souhaite poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire et qu'il a besoin soit d'aide humaine, donc d'AESH ou de dispositif ULIS, il faut avoir une notification MDPH. Donc effectivement, on a nous des représentants qui vont siéger à la MDPH et défendre ses droits. On a aussi un groupe de travail qui réfléchit autour de cette question de la formation et de l'école, où effectivement c'est un groupe qui est constitué de personnes, enfin d'adultes hein, qui sont passés par là, de parents et de professionnels, et où on essaye effectivement, il y a eu une rencontre il y a peu de temps avec l'inspectrice pour essayer un petit peu voilà, de faire bouger les choses. Et puis, l'association intervient aussi pour la formation des AESH, donc qui sont en première ligne pour accompagner ces enfants-là et qui malheureusement ne sont pas toujours formés pour bien accompagner ces enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc voilà, on essaye un petit peu de non seulement accompagner ces personnes-là, mais aussi d'agir sur les environnements, parce qu'on se rend compte que bah, c'est pas uniquement les personnes qui ont leur part à jouer. Enfin, voilà, elles sont comme elles sont et puis elles avancent dans leur vie, mais on est aussi beaucoup en sensibilisation et en soutien aux environnements qu'il faut faire bouger. Et quand on parle de société inclusive, bah, c'est aussi les environnements qui doivent un petit peu prendre leur part et pouvoir bouger pour accompagner ces enfants et ces adultes après de la meilleure façon possible.
Dans les personnes qui viennent vous voir à Prisme 21, quel est l'accueil qu'il aurait réservé? Et puis, est-ce que ils viennent vous demander une sollicitation ponctuelle ou bien c'est des personnes qui s'inscrivent aussi dans la durée, dans la vie de la structure et s'engagent dans différentes commissions?
Alors, les personnes qui sont accompagnées par les services, elles sont soit elles ont une notification de la MDPH, c'est-à-dire que c'est un moyen de compensation, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement par un service. Et dans ce cadre-là, effectivement, elles peuvent bénéficier d'un soutien avec une équipe pluridisciplinaire. Donc voilà, au niveau éducatif, psychologique, sur de la rééducation aussi. Et puis, donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va s'inscrire sur voilà, sur des projets un peu plus ou moins long terme. Et puis, le dispositif, moi, sur lequel je travaille, donc Prisme Accès, va plutôt s'adresser à des personnes qui sont en situation de handicap, mais pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir une orientation de la MDPH. Et nous, on va être vraiment sur qu'est-ce qu'elles ont besoin aujourd'hui, ici et maintenant, et intervenir au besoin sur des ressources ponctuelles, sur une aide à la réflexion, une aide à la recherche de solutions. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qui peut être un accompagnement qui peut être proposé, même si la personne est sur un service. Alors, un service de notre association, mais on peut aussi accompagner des personnes qui sont accompagnées par d'autres dispositifs ou services portés par d'autres associations. On est vraiment là pour le cœur de notre dispositif, c'est vraiment que les personnes puissent s'autodéterminer, savoir connaître leurs droits, savoir ce qu'elles souhaitent, savoir ce qui existe aussi. Donc, on fait beaucoup de l'accès aux droits pour pouvoir vraiment ensuite agir pleinement, faire des choix éclairés. Donc, on est aussi on essaye de porter au plus haut le pouvoir d'agir des personnes, qu'elles puissent vraiment s'emparer de ce qu'elles souhaitent et de le mettre en œuvre. Avec un soutien qui est, alors nous, pour le coup, ça peut être ponctuel, ça peut être au long cours, ça peut être, c'est vraiment à la demande. On est quelque chose de beaucoup plus flex.
Alors justement, cette notion d'autodétermination, c'est né quand ce titre générique autodétermination? Et puis, vous avez commencé à le définir, mais c'est quoi votre définition de l'autodétermination?
Alors, l'autodétermination, c'est un concept qui est né dans les années 60 aux États-Unis. Enfin, qui est né même il y a plus longtemps que ça, mais dans le champ du handicap, c'est vraiment, ça part des peuples d'Amérique du Sud qui voulaient voilà, se battre contre l'oppression et défendre leurs droits. Donc ça part de là, donc c'est vraiment très ancien. Et c'est arrivé dans les années 60 aux États-Unis par des étudiants en situation de handicap, donc plutôt des jeunes étudiants en fauteuil qui n'avaient pas accès à l'université et qui se sont retrouvés à deux ou trois et qui ont commencé un petit peu à se battre en disant « mais nous, on veut aussi avoir accès à l'université » et qui ont monté un collectif et qui ont commencé un petit peu à revendiquer ce qu'ils voulaient et comment ils voulaient que ça se passe. Donc, c'est un peu parti de là, ce concept-là. Et puis, dans les pays, aux États-Unis, au Canada, ils sont très en avance sur nous. Nous, en France, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on en parle, et encore dans des milieux très spécialisés. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée, et c'est vraiment nous, ce qu'on essaye de mettre au travail chaque jour, aussi bien auprès des personnes qu'on accompagne que de leur entourage, c'est de, pour s'autodéterminer, il faut se connaître, ce qui est parfois compliqué quand on a une déficience intellectuelle. Donc, c'est tout un travail de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire. Pour ça, il faut aussi pouvoir faire des expériences, donc essayer, se tromper, en tirer les conséquences, qu'est-ce que ça m'apporte, ça aide aussi à plus se connaître. Et ça, parfois, quand on est en situation de handicap, faire l'expérience, c'est compliqué, ça peut faire peur. Donc, c'est aussi accompagner l'expérience de manière sécure. Hein. L'idée, c'est pas de mettre les gens en difficulté, mais de pouvoir un petit peu, comme chacun, tous dans nos parcours, on a essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, on est revenu en arrière, on a repris un autre chemin. Voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir accompagner ça, pour que la personne puisse vraiment aller vers ce qui est important pour elle. Et on sait aussi que quand on a affaire à des personnes dites vulnérables, c'est souvent les professionnels, les parents qui choisissent pour eux. Alors, pas du tout par malveillance, hein, mais parce que c'est parfois plus simple, parce qu'on pense qu'on sait mieux ce qui est bon pour la personne, et on s'aperçoit que, après, faire un choix, c'est compliqué. Donc, on essaye dès le plus jeune âge, hein, sur les collègues du CESA, de pouvoir faire des petits choix. Comment je m'habille ce matin, je prépare deux tenues, et je vais choisir cette tenue plutôt que de l'autre. Enfin, à chaque âge de la vie, on peut faire des petits choix, mais qui amènent à se connaître, à être en capacité de faire des choix, être en capacité aussi de se tromper, d'apprendre de ses erreurs et puis de pouvoir développer des compétences, s'adapter aussi. Hein. J'essaie quelque chose, ça ne marche pas, comment je fais, comment je m'adapte, gérer l'imprévu. C'est tout ça, l'autodétermination.
Alors, cette interview rentre dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, où des thèmes sont traités comme l'égalité de genre, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le harcèlement, pour la diversité, et le handicap en fait partie. Aujourd'hui, quand on parle de Prisme 21, si l'on parle un peu de discrimination, est-ce que c'est... alors, j'imagine que oui, mais de quelle part ça dans le quotidien des personnes que vous accompagnez, dans ce qui peut vous rapporter, et peut-être l'interprétation que vous pouvez avoir sur des faits de discrimination réels, et puis voilà, dans ces faits-là, est-ce que vous avez aussi un pouvoir d'agir ?
Alors, on est encore aujourd'hui malheureusement confronté à de la discrimination. Et effectivement, alors moi j'ai un événement tout de suite qui me vient en tête, c'est un groupe de jeunes adultes qui souhaitaient aller en boîte de nuit, alors c'était il y a déjà quelques années de ça, et qui s'est vu refuser l'entrée en boîte de nuit. Et comme c'était des personnes très autodéterminées, ils n'étaient pas très contents, et du coup ils ont parlé aux personnes qui étaient autour d'elles, et on a pu accompagner ces personnes pour défendre le droit, c'est allé jusqu'au tribunal. Ils ont gagné. Alors, voilà, c'était pas l'idée de soutirer de l'argent à la boîte de nuit, puisque ça, voilà, il y a eu, je crois que, voilà, ils se sont mis d'accord sur un euro symbolique, mais c'était vraiment l'idée de se dire que chaque personne a le droit de pouvoir aller en boîte de nuit s'il a envie et de pouvoir montrer que tout est possible. Alors souvent, on voit bien que c'est de la méconnaissance, que c'est de la crainte, mais malheureusement, c'est encore aujourd'hui présent et régulièrement, il y a des choses comme ça qui nous sont rapportées. Et l'association est aussi très, très militante et très engagée pour soutenir aussi quand il y a des jeunes qui sont, ou des moins jeunes, hein, qui sont victimes de discrimination, pour aller défendre c'est leur droit. Hein. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même pu accompagner toutes ces personnes pour qu'elles puissent déjà le repérer, parce que c'est pas toujours évident de repérer. Ça fait aussi partie de tout ce travail de longue haleine, de dire bah, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, et que parfois, effectivement, ils sont victimes de choses qui ne sont pas autorisés, de le repérer, de pouvoir aller jusqu'à voilà, saisir la justice, saisir le défenseur des droits. C'est aussi des choses auxquelles on peut avoir recours. Et puis accompagner la personne jusqu'au bout du processus, et puis parfois aller jusqu'à voilà, jusqu'au dépôt de plainte. En tout cas, voilà, c'est malheureusement des choses qui sont encore aujourd'hui présentes parfois dans le quotidien de ces personnes.
Alors, Prisme 21 existe avec ses accompagnements, avec ses propositions, mais également des manifestations extérieures que vous organisez de temps en temps à la destination de finalement tous les publics pour sensibiliser, pour informer. Ces manifestations-là, être présent dans l'espace public, c'est aussi important pour vous ?
Oui, effectivement, on essaye de pouvoir être présent sur les manifestations. Alors, on a aussi beaucoup de. On intervient pas mal sur certaines journées un peu fortes. Hein. Bon, effectivement, sur la journée de la trisomie, l'association organise chaque année des petits déjeuners qui se déroulent généralement, c'est un dimanche au mois de novembre, qui se déroule depuis plusieurs années à la Fabuleuse Cantine. Et effectivement, c'est aussi un moment de partage ouvert à tous. Et puis, sur des manifestations auxquelles on est invité, où généralement on essaie toujours de répondre favorablement, pour présenter un petit peu, bah voilà, ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis, il y a des choses un peu moins solennelles, mais il y a par exemple les 24 heures de Roche. Qui est alors il me semble que cette année c'est sur le week-end du 7-8 juin ou 8-9 juin, je sais plus exactement les dates, mais c'est sur ce week-end-là où alors ça c'est aussi un événement qui se déroule depuis plusieurs années, où ce sont des équipes mixtes de personnes qui se relaient pour courir pendant 24 heures au profit d'associations. Donc ça se déroule à Roche-la-Molière, et c'est des moments plutôt chouettes où les gens se rencontrent autour du sport, et c'est aussi une manière de passer des messages, de montrer qu'on peut faire plein de choses ensemble et que ça fonctionne.
Alors pour vous contacter ou se renseigner sur vos activités, quel est le meilleur moyen ?
Alors on a un site internet qui s'appelle Prisme21Loire, www.prisme21Loire, où effectivement on peut trouver toutes les informations, à la fois les contacts des services de l'association. Sinon, l'association a une permanence tous les mardis après-midi. Ça se trouve 10 rue du Monteil à Saint-Étienne, où il y a toujours des co-gouvernants qui sont là, donc parents, personnes, professionnels, et qui reçoivent les personnes qui souhaitent venir nous rencontrer. Donc c'est assez facile, soit par le biais du site, en passant un petit coup de fil au numéro de l'association, soit en passant le mardi après-midi.